m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures, avec ce soir mes 3 voix subtiles et à droite, comme d'habitude, pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel est là, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Bonsoir Damien.
Bonsoir cher Marc, chers auditeurs.
Bonsoir Gérard Gachet, journaliste, ancien porte-parole des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris.
Bonsoir.
Bonsoir Gérard. Et Franck Herriot, journaliste et écrivain habitué de cette émission et pilier de l'émission. Bonsoir Franck.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible, mais ça, vous le savez. Vous êtes les bienvenus au programme ce soir. Un petit édito que je vous infligerai sur Macron, qu'il a donc baptisé le France libre. Brouiller les cartes, toujours. L'Iran, les opérations militaires vont-elles durer? Ce sera notre grand dossier que nous ouvrirons en compagnie du général Sidos, que je vous présenterai tout à l'heure. C'était cette semaine, un djihadiste français a été jugé à Paris pour esclavagisme sexuel à l'encontre des yézidis. Ce sera notre deuxième partie en compagnie d'Aliénor de Pompignan, une brillante journaliste de Boulevard Voltaire qui a suivi ce procès hallucinant. Qui s'est d'ailleurs terminé ce matin même, ce vendredi. Et puis nous aurons comme d'habitude notre clin d'œil culture. Tout le monde a préparé une petite échappée culturelle. Ça va être fantastique, ils regardent tous le plafond. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'est-ce qui vous a saisi et qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine? Allez, Franck Herriot.
Moi, je voulais simplement évoquer des mesures prises par le ministère de l'Intérieur qui sont passées inaperçues ou presque entre le détroit d'Ormuz et les élections municipales. Il s'agit du plan filière investigation. Ça concerne la police, qui concerne donc les 31 000 enquêteurs de la PJ, la police judiciaire. Au total, 125 mesures et 42 millions d'euros mis sur la table par le ministère de l'Intérieur. L'objectif est de renforcer la PJ, on le sait, désertée par les recrues, décriée par les enquêteurs eux-mêmes, et puis aussi et surtout faciliter une procédure pénale devenue asphyxiante, trop lourde, grâce notamment à l'IA, comme la transcription qui permettra la transcription automatique des auditions, qui va permettre aussi aux policiers de la PJ de gagner des centaines d'heures et de souffler un peu. Il y aura de nouvelles primes, une école dédiée à l'enquête, des effectifs supplémentaires. On parle de 700 nouveaux postes. Ce sera suffisant pour redonner aux enquêteurs l'autonomie, l'initiative et pour redonner du temps à l'enquête. Il faut l'espérer, même si certains en doutent au sein de la PJ. Il est vrai que les services croulent sous les dossiers et il faudra du temps, beaucoup de temps, avant de résorber ce trop-plein.
Bon, bonne mesure donc.
Oui, ça peut effectivement redonner un petit coup de fouet à la PJ qu'elle a bien besoin, et donner du temps aux enquêteurs, parce qu'une enquête, ça ne se fait pas par-dessus la main. Il faut du temps, il faut des moyens.
Ouais, absolument. Et la société française étant ce qu'elle est, on en a besoin. Ouais. Gérard Gachet.
C'est une affaire, c'est moins élevé comme sujet que celui de notre ami Franck Herriot, mais c'est également un peu judiciaire, puisque c'est une affaire d'ailleurs qui a révélé notre ami Aliénor de Pompignan sur Boulevard Voltaire cette semaine, c'est l'affaire du jeune Babacar. Et je trouve que l'affaire du jeune Babacar, elle révèle pas mal des failles de la société française d'aujourd'hui. Alors Babacar, c'est un jeune homme âgé de 24 ans, qui demeure dans une cité du 15e arrondissement, la cité des Frères Voisins. Vous voyez, Frères Voisins, c'était parmi les premiers constructeurs aéronautiques français.
C'est un petit rapport
avec le reste de l'affaire. Et donc, le jeune Babacar est bien connu de la police et de la justice pour un certain nombre de faits qui sont presque d'une grande banalité, le refus d'obtempérer, violence à personne dépositaire de l'autorité publique, mais quand même aussi pour des choses un peu plus graves.
Une chance pour la France.
Oui, une chance pour la France, cambriolage et trafic de stupéfiants, ce qui lui vaut d'être emprisonné en principe jusqu'en 2028. Mais Babacar, qui est manifestement désireux de s'instruire, s'est inscrit récemment pour visiter une exposition consacrée, je cite, « aux droits des citoyens », ça ne s'invente pas. Avis défavorable du parquet contre cette permission de sortie, avis défavorable de la direction de l'établissement pénitentiaire, où il purge sa peine, mais accord du juge d'application des peines. Voici quelques jours, Babacar et deux de ses co-détenus sont donc de sortie, accompagnés quand même par six fonctionnaires, dont un gradé de l'administration et de l'autorité pénitentiaire, qui se méfient.
Elle se méfie, mais pas assez. Il s'est pris de passion pour Babacar.
Voilà, elle se méfie, mais pas tout à fait assez, puisqu'à la station Aubert, où il y a beaucoup de monde, ça circule beaucoup, eh bien, parce qu'ils vont en métro, bien sûr, pour ces sorties, au milieu de tout le monde, Babacar disparaît. Il quitte la France, passe en Belgique, ça aussi c'est normal, puisque nos frontières sont une passoire bien connue, et de là, il prend un avion pour le Sénégal. Heureusement, au Sénégal, donc les frères voisins, il a pris un avion, il y a une logique dans tout ça, il prend un avion pour le Sénégal, et là-bas, il est intercepté par la police à son arrivée à l'aéroport international de Dakar. Eh bien écoutez, le directeur de l'administration pénitentiaire a donc décidé de suspendre toutes les sorties collectives jusqu'à nouvel ordre. Quand on imagine le temps et l'argent dépensés pour la sortie, l'évasion et la reprise du sieur Babacar, il aurait sans doute fallu commencer par là.
Oui, voilà, comme quoi c'est parfois long de retrouver le bon sens.
Moi, je connaissais
Damien
bien Babacar.
Le mot de l'avocat.
Celui de France Gall.
Exactement. Oui. Et alors, je voudrais citer France Gall.
Oui. Où es-tu,
Babacar, où es-tu? Je vis avec ton regard depuis le jour de mon départ. Tu grandis dans ma mémoire. Babacar.
Oui, j'y ai pensé aussi. Voilà.
C'était la minute culturelle de Damien Chalamel. Voilà. Belle mémoire. Voilà. Et en dehors de France Gall,
le prisme juridique, c'est un clin d'œil de ma rubrique. Alors j'ai plusieurs noms, l'islam pour tous, le grand remplacement, la Nouvelle France. Je préfère encore la Nouvelle France. C'est une décision du tribunal administratif de Dijon qui valide en référé l'arrêté du maire de Chalon-sur-Saône qui prohibe les signes ostensibles religieux quand ils sont portés par les conseillers municipaux. Alors, bon, suivez mon regard, vous aurez bien compris, on parle du voile islamique, et cet arrêté du maire, qui est...
Il n'y a, pas beaucoup de religieuses en costume, ni d'évêques au conseil municipal.
Alors, il y a bien, je ne sais pas, à Font-Gombeau, la commune du Barou ou autre, un corps électoral assez marqué, mais là, non. Et donc, ce qui est amusant, c'est que, bien évidemment, pourquoi je vous parle de la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon, c'est que cet arrêté, sa légalité était contestée par deux conseillères municipales anturbanées, membres de la France insoumise. Alors, ce qui est amusant, c'est que, on va pas parler de droit ce soir, cet arrêté est validé, mais en référé, en tous les cas. Mais à mon sens, elles ont de fortes chances, ces braves conseillères municipales, de voir cette décision infirmée, en tous les cas d'avoir raison au fond, et de telle sorte qu'elles pourront...
Qu'en poursuivant la procédure, elles obtiendront
exactement, raison. Exactement, sauf s'il y avait un trouble caractérisé à l'ordre public ou autre, mais ce qui, et que ça excède largement, à mon sens, les pouvoirs de police... d'un maire, fût-il le premier magistrat de sa ville. À mon avis, ça ne tiendra pas au fond dans le Conseil d'État. Mais je souhaite me tromper. Mais j'y ai pensé parce que, c'était donc le 18 mars. Et par ailleurs, j'ai regardé les apparences des nouveaux conseillers municipaux de la Nouvelle-France, en particulier celle de monsieur. Je crois que c'est Traoré, non, je ne sais plus. Enfin bref, ou Diop, celui le maire de Saint-Denis.
Bayagoulou, comme je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, alors je ne sais pas, monsieur Diop, monsieur Traoré, monsieur Babacar, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai constaté qu'un certain nombre, effectivement, de ces colistières, arboraient clairement le hijab, ce qui n'étonnera personne, mais voilà, c'est une des données de la... de cette nouvelle France.
Alors justement, moi j'ai relevé quelque chose qui va tout à fait dans le même sens, qui concerne aussi notre ami Mélenchon. Alors vous savez qu'il est... Il nous a expliqué que sans l'apport des Arabes, on n'aurait pas eu de cathédrale, hein, que c'était eux qui les avaient inspirés, que les Goths, en fait, ne savaient que casser, hein, et pas du tout construire. C'était à propos de nos cathédrales gothiques, bien sûr. Et puis en meeting à Saint-Denis, on a eu cette dernière saillie mélenchonesque. Il a bien fallu un jour qu'il y en ait un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin vous soyez ici en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Alors, bon, c'est quand même hallucinant parce que c'est vrai que la même phrase, si vous voulez, qui aurait été dite à l'encontre d'une autre communauté, des Asiatiques par exemple, au hasard, aurait fait scandale. Bon, mais là, on peut cracher sur ce. Sur la communauté et la culture dont on fait partie, puisque Mélenchon a beau se tortiller dans tous les sens, il est quand même issu de la culture occidentale et européenne.
Ah non, il se définit lui-même comme maghrébin.
Ce qui fait rire tout le monde.
Il est fils de colon, oui.
Ça fait rire tout le monde. Mais là, il pousse quand même assez loin ce qui ressemble quand même à un négationnisme de ce qu'il est.
Oui, c'est ce qu'on appelle le privilège blanc, en quelque sorte. Mais comme il est d'ascendance espagnole, il est peut-être d'ascendance visigothique.
Mais
alors, ça, c'est possible.
Si je peux me permettre, cher Marc.
La citation est quand même incroyable. Tout vous est permis, mon cher Gérard.
Merci, Marc. Mais on dit souvent, Mélenchon s'est tiré une balle dans le pied, s'est fourvoyé, il va perdre. Mais bien sûr, il suit une stratégie très fidèlement, pas seulement de provocation, de la stratégie mise au point par Terra Nova. On remplace le vieux prolétariat français en voie de disparition par les migrants, les immigrés, etc. Et donc, il applique ça, et tout ce qu'il fait sont des signes tendus, des mains tendues envers cet électorat nouvellement français, et on a pu voir au résultat du premier tour des municipales que les résultats pour lui n'étaient pas mauvais du tout.
Absolument, absolument. Il a tout à fait le... Comment dire, la situation électorale, l'évolution, y compris des résultats du premier tour, lui donne raison. Il faut reconnaître. Allez, un petit édito. Macron l'a donc baptisé le France libre ou la France libre, on ne sait pas très bien. Je crois que l'Académie a tranché pour le, c'est
le
ça
Le France libre, bien sûr, il s'agit du porte-avions.
Voilà, bon. Il s'agit de brouiller des cartes. Toujours, juste après ceci.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Notre porte-avions nouveau s'appellera donc le France Libre. Et c'est un beau nom, franchement. C'est même en soi tout un programme. Il y a bien sûr derrière ce nom une histoire, l'épopée de la reconquête du territoire français. Il y a des valeurs, la liberté. Il y a aussi cette nuance de grandeur, car on n'est pas libre quand on est faible. Et puis, il y a une identité. Les Français ont avec la liberté un rapport passionnel et un projet d'avenir. Donc, va pour la France Libre et tant pis pour les noms qui ont été écarté par Emmanuel Macron, regrettera le Richelieu, le Clémenceau, moins le Simone Veil. La France, donc, va se saigner aux quatre veines pour produire cet instrument de sa liberté et de son indépendance. Notre ami Georges Michel, grande plume de Boulevard Voltaire, comme chacun sait, a repris les mensurations du France Libre dans Boulevard Voltaire. 80 000 tonnes, deux fois le Charles de Gaulle. De quoi rivaliser avec les 100 000 tonnes de l'Abraham Lincoln américain, écrit Georges Michel, 310 mètres de long, soit presque une tour Eiffel, deux réacteurs nucléaires à son bord, 40 aéronefs, contre 21 pour le Charles de Gaulle. Un outil de puissance dans un monde où les océans sont un enjeu stratégique considérable, rappelle Georges Michel, qui donne le coût de ce France libre, 10 milliards d'euros minimum, peut-être 12, peut-être 15 quand ça dérapera, peut-être plus. On pourrait se réjouir donc, mais le choix de Macron pour nommer ce bâtiment, qui ne verra le jour que dans 12 ans, tient en réalité, comme d'habitude, un peu de la provocation. Car jamais un président n'aura été aussi convaincu que Macron de la nécessité d'enchaîner la France. Il s'y est employé près de 10 ans durant ce pays. Macron s'est efforcé de l'enchaîner dans une immigration qui a explosé sous son règne. Le président du France Libre a soumis le pays à d'innombrables règlements ou lois qui l'empêchent d'agir et qui imposeront à ses successeurs de passer par des référendums. Il a réussi à l'enchaîner aussi par la dette, à le soumettre comme jamais à l'Europe. Il lui a refusé le contrôle de ses frontières et il lui a retiré l'autonomie de son énergie, de son agriculture, de son industrie. Macron est un militant du sans-frontiérisme le plus dangereux, un élève de Jacques Attali, un soldat de la mondialisation sans frein comme contre les États, fût-il le sien, celui qu'il dirige. L'homme qui a choisi d'appeler notre porte-avions la France libre écrivait dans le Figaro « Le fondement de la culture française, c'est une ouverture sans pareil ». Il avait lancé en 2017 à Lyon, vous le savez, vous vous en souvenez, il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. À Londres, il ajoutait « L'art français, je ne l'ai jamais vu. La France en Algérie, un crime contre l'humanité », disait-il. Il a voulu déconstruire notre propre histoire, je le cite toujours, et, ouvrez les guillemets, reconstruire l'art d'être français. En campagne, le 24 octobre 2016, le même Macron lançait « La France, ce n'est pas une identité fixe, fermée, repliée, sur un passé fantasmé. La France n'est pas non plus une idée à laquelle on songe de manière abstraite. La France, c'est une volonté, c'est notre volonté, il n'y a que ça qui la tient ». Le choix par ce personnage de la France libre, par un tel personnage, a des allures d'ultime provocation. Voilà, que pensez-vous, c'est mon avis, que pensez-vous de ce nom autour de la table? Comment est-ce que vous auriez baptisé ce porte-avions? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe?
Je suis beaucoup plus basique. Moi, vraiment, je trouve que c'est très bien. C'est un rappel de l'histoire de France.
Oui, absolument, je l'ai dit.
J'ai aucun souci avec ça. Que ce soit Macron ou un autre, Macron l'oubliera, le France libre restera.
Pas de paradoxe avec le macronisme. Non, bon.
Moi, j'aime bien le nom le France libre, qui rappelle quand même un des épisodes assez glorieux du XXe siècle, où la France s'est quand même relevée et illustrée. Sinon, pour faire un peu de provocation à mon tour... J'aurais bien aimé le Napoléon, mais ça n'aurait pas forcément plu à tout le monde.
Non, c'est certain. Ça aurait plu à Jean-François Coulon-Désart, qui n'est pas là ce soir.
Oui. Le Bonaparte. Mais,
voilà.
Ou le Bonaparte.
ou le Bonaparte. Notre ami avocat, Damien Chalamel.
Alors moi, je ne suis pas gaulâtre, donc, mais bon. Oui, non, mais pourquoi pas. C'est très beau, la France libre.
C'est un bon programme.
C'est
pas
un bon programme. Mais le Mercel Kébir ou le Toulon.
Mais décerné par Emmanuel Macron. Mais,
bon, ben oui, effectivement, ça relève un peu de l'oxymore, hein, comme vous l'avez souligné.
Quand même, hein.
C'est le chantre de l'européisme et de l'immigrationnisme forcené. Mais bon, on connaît le personnage. Donc, c'est Frégoli.
C'est ça.
Là, nous avions le national.
Cinq minutes, cinq costumes.
Alors, je n'ai pas la télé, mais il n'était pas déguisé en militaire, parce qu'il aime bien se déguiser.
Non,
mais c'est vrai, il prend des accents comme ça, un peu le sourcil.
Chaque fois que je le vois.
La flaquette grisonnante.
Militaire, je me dis, on voit que ce gars-là n'a pas fait son service militaire. C'est la première chose qui me saute.
Mais il n'y peut rien,
c'est la figure.
C'est générationnel.
C'est une réflexion de vieux con qui a fait son service. Ouais. Voilà. Ouais. Ça n'arrive plus à personne de se dire ça. Voilà. Très bien. Allez, nous parlerons donc tout à l'heure de ce djihadiste français qui est jugé à Paris pour esclavagisme sexuel à l'encontre des femmes yézidis. C'est un truc absolument incroyable. Le procès s'est terminé. Ce matin, nous en parlerons avec Aliénor de Pompignan, mais tout de suite, nous allons repartir pour l'Iran et on va se poser une question, les opérations militaires vont-elles durer? Mais on se posera aussi bien d'autres questions juste après cet petit épisode.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Gérard Gachet et Damien Chalamel. Nous avons évoqué ici les effets de la guerre sur la région, notamment sur le Liban. Nous avons parlé de l'Iran, nous avons évoqué la semaine dernière les effets du conflit sur le pétrole. Et j'aimerais qu'on parle cette semaine de l'aspect purement opérationnel de ce conflit. Où en sont les États-Unis ? Les coups de boutoir d'Israël sont-ils efficaces ? L'Iran peut-il tenir ? Quelles sont ses capacités de réaction ? Combien de temps ce conflit qui tient le monde en haleine peut-il durer ? Ces questions, nous allons vous les poser, mon général. Général Philippe Sidos, bonjour.
Bonjour à tous.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Courtoisie de Boulevard Voltaire. Vous avez servi comme attaché de défense en Russie, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, ainsi qu'au Tadjikistan, au Kazakhstan. Vous avez effectué des séjours opérationnels dans les Balkans, au Caucase, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Liban, donc pas très loin du conflit qui nous occupe. Et vous êtes aussi l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL de 2016 à 2018. Vous allez nous apporter votre regard d'officier sur les opérations en cours. Et peut-être pour commencer, je voulais vous interroger, la France pleure une première perte, un premier mort au combat, c'est celui de l'adjudant-chef Arnaud Frion. Comment est-il mort et comment réagit-on à cette nouvelle quand on est un officier supérieur comme vous ? On sait que la patrie vous demandera peut-être un jour le sacrifice de votre vie quand on s'engage dans cette carrière. Mais on s'est quand même déshabitué, il faut bien le dire, à compter des morts sur les opérations extérieures. En tout cas, ça n'arrive pas très fréquemment en France. Quelle était votre réaction ?
Alors, tout d'abord, pour resituer la mission, c'était dans le cadre de la mission Chamal, qui est une lutte contre le terrorisme islamique de Daesh, ou en Irak. Alors, c'est une mission qui n'est pas très connue, qui n'est pas très publicisée, je dirais, mais on a quand même 1000 personnels. On a des avions en Jordanie, donc voilà pour le théâtre irakien.
Fait longtemps, ils sont là depuis longtemps, les Français.
Oui, depuis longtemps. Ouais, alors la date exacte pour moi, c'est je pense 2014. Oui, c'est quand même impressionnant. Ah, ouais. Hein. Alors on a déjà eu des tués en Irak. Attention. Hein. On a déjà eu un sous-officier du CPA-10, du commando parachutiste de l'air numéro 10, qui a également été tué au combat. Alors ça a été relativement discret également, mais il a été tué au combat. Il était au combat avec les gens conformes. Alors lui, l'adjudant-chef était à la formation de Kurdes. Bon.
Alors je coupe juste une seconde pour dire qu'on aura justement un officier du CPA-10 tout à l'heure au téléphone. Voilà.
Très bien, c'est une très belle unité.
Très
belle unité. Alors je les ai connus, je ne vais pas raconter mes histoires, mais je les ai connus tout au début de l'intervention en Afghanistan, quand on était au Tadjikistan. On avait des avions qui étaient au Kyrgyzstan et qui devaient survoler en particulier donc, le Tadjikistan pour aller frapper en Afghanistan. Vous voyez, on commence à confondre. Et donc il y avait cette équipe du CPA-10 qui était là en charge pour faire ce qu'on appelle un travail de résal, c'est-à-dire de recherche et sauvetage éventuellement donc, si un équipage était abattu. Alors c'est une mission qui est indispensable quand il y a des avions qui survolent un théâtre d'opération. Donc l'adjudant-chef, des informations que l'on a, en fait, il était dans un camp et qui a été visé donc, par des islamistes soutenus par l'Iran. Alors, moi, la question que je me suis toujours posée, c'était de savoir si c'était un Français qui était visé ou si c'était un camp de la coalition occidentale. Les deux options n'ont pas été éclairées, de toute façon parce qu'on ne sait pas quels étaient les objectifs. Alors il y a eu un lien, on a établi un lien, soi-disant, quand le président Macron a dit qu'il avait l'idée d'intervenir dans le détroit d'Ormuz. C'était il y a donc plus d'une semaine. Et donc il y aurait eu un lien. Alors déjà le gouvernement iranien ne s'en est pas flatté, ne l'a pas revendiqué. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Alors néanmoins, tout ça, ça s'inscrit quand même dans des combats quasi incessants.
Donc ça ne serait pas directement l'Iran qui aurait provoqué ce...
Alors vous savez, dans ces affaires-là, on ne sait pas si c'est une initiative...
Qu'est-ce qui s'est passé déjà
Alors en fait, ils ont tiré des drones sur le camp. Et donc, il y a eu 6 Français blessés et un tué. Hein, je pense que c'est à peu près ça.
Ce sont des drones.
Donc voilà, c'est un drone. Alors, les fameux drones, sans doute, drones Shahed efficaces et économiques qu'utilise l'Iran. Donc, il a été tué sur le camp, dans le cadre de cette coalition internationale contre le terrorisme djihadiste de Daesh en Irak. Donc voilà. Alors... Un sous-officier, alors on en a parlé, c'est un sous-officier, c'est le pur produit de la qualité du soldat français qui a une plus d'une vingtaine d'années de service.
Voilà, là, vous parlez de l'adjudant-chef Arnaud Frion.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, il avait la médaille militaire, qui est la grande récompense des sous-officiers. Il avait 4 citations à la Croix de la Valeur Militaire. Il avait fait 10 opérations. Mmh. Alors, vous faites le compte, hein, 10 fois 6 mois. C'est lourd, hein, c'est quand même important. Mmh. Il avait été un petit peu partout, sur tous les théâtres d'opération où nous sommes engagés. Hein, l'Afghanistan, le Niger, le Mali, donc l'Irak. Il avait participé à plein d'opérations et on a découvert récemment qu'il avait été dans une opération où ils avaient porté secours à des forces spéciales américaines au Niger. Mmh. Ils étaient intervenus, bon, les Américains étaient mal engagés, et donc les Français ont été engagés pour les dégager, j'emploie toujours ces termes, engagés, dégagés. Et donc voilà, bon, ça c'est un de ces faits d'armes, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont moins connus.
Donc belle figure de soldat.
C'est une très belle figure de soldat.
Pas une tête brûlée du tout,
pas du tout,
à bleu comme on dit, c'était quelqu'un d'expérimenté.
Chasseur alpin, ouais. La montagne rend les gens très sérieux, voilà, c'est une grande qualité, un personnage majeur, bon, son chef de corps en a fait l'éloge. Alors quand on apprend une perte comme ça, alors bien sûr on le connaît pas forcément, bien évidemment.
Comment est-ce qu'on
réagit? On réagit avec émotion, avec douleur, mais avec fierté. C'est-à-dire que on a tous côtoyé sur les théâtres d'opération des sous-officiers de cette qualité, des officiers ou même des militaires du rang. Par exemple, il y a le caporal-chef du 7e BCA également, du 7e bataillon de chasseurs alpins, Maxime Blasco, de mémoire, qui a été tué en Afrique. Et quand il y a un livre même qui a été consacré à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a même une séquence où il est filmé, dans une séquence qui est digne d'Hollywood, bien évidemment, où je crois qu'il y a un hélicoptère qui est abattu, il intervient, il récupère l'équipage. Et pour être évacué par un autre hélicoptère, il s'accroche à un des patins de l'hélicoptère. C'est quand même assez fantastique. Mmh. Et ce sont des personnes, des soldats, sous-officiers militaires du rang, qui sont toujours volontaires pour partir en opération. Ouais. Ce sont d'authentiques serviteurs de l'État. Mmh. Ils servent, ils sont morts pour la France, comme l'a dit tout de suite le président, ce qui signifie quelque chose. Ce qui nous prend au trip.
Ils ont conscience de ce qu'ils risquent en allant là-bas ou pas?
Ils ont totalement conscience de ce qu'ils risquent quand ils vont là-bas. Ils savent très bien, ils ont déjà affronté la mort plusieurs fois, ils ont eu des camarades qui ont été blessés, des camarades qui ont été tués. C'est pour ça que je citais il y a quelques années le caporal-chef Maxime Blasco. Et puis vous savez, on intervient depuis 78. Alors, on intervient depuis 78, mais néanmoins, on intervenait déjà au Tchad dans les années début des années 70.
Ouais.
On avait déjà eu des tués
bien
au
sûr.
Tchad.
Oui, bien sûr.
On avait eu déjà, mais on n'en parlait pas à l'époque. On n'en parlait pas. Et il y avait une mauvaise réflexion à l'époque. Je suis retombé sur un article en disant, mais rassurez-vous, ce sont des engagés. C'est incroyable distinction qu'on faisait. Non, c'est un soldat français, c'est un citoyen
français. Bah oui.
Donc c'est tout à fait honorable. Et surtout, on revient. Et d'ailleurs, le président Macron a tout de suite dit qu'il était mort pour la France. C'est-à-dire qu'on monte le niveau de respectabilité. Mort pour la France, ça date bien évidemment de la guerre de 14-18. Et c'est également quelque chose que Clémenceau, puisqu'on revient sur Clémenceau, mettait en exergue. Ils ont des droits sur nous. Mort pour la France. Et il y a également, à la suite, le fils qui est pupille de la nation. Ça date de la guerre de 14-18. Il y a une veuve. C'est ça qu'il faut jamais oublier quand il y a un soldat de son âge qui est tué. Il y a une veuve, il y a des orphelins.
Bien sûr, il y a une famille derrière.
Donc c'est toute une douleur, c'est toute une angoisse de vie. Parce qu'il a vécu longtemps, certainement, avec son épouse. Je crois que le fils a déjà 7 ans. Elle a connu des opérations, elle a connu l'angoisse. Ça se conclut dramatiquement, mais honorablement. Pour nous, soldats, c'est un héros, c'est un monument. Le terme ne doit pas être galvaudé. C'est un personnage. Le 7e BCA gardera son souvenir, c'est bien évident. Malheureusement, il n'a pas eu les honneurs auxquels on était un petit peu habitués aux Invalides.
Oui.
On est surpris.
Il n'a pas eu la cérémonie aux Invalides.
Et en plus, à Vars, en fait, il n'y avait pas ni le président de la République, ni le Premier ministre pour son enterrement, ce qui était un petit peu dommage aussi.
Mais c'est relativement récent, ces cérémonies aux Invalides. Hein.
Alors,
ça
nous permet de revenir
quelques années, une dizaine,
au
non
théâtre libanais.
Oui.
Moi, la mémoire que j'ai, c'est le Drakkar. C'est 1983.
Et là, ça avait été aux Invalides.
C'était aux Invalides. Vous aviez les 58 cercueils des Invalides.
Les cercueils dans la cour des Invalides.
Ah, oui, des Invalides.
Ouais, donc c'est plus ancien que ce que je dis.
Oui, vous voyez, donc ça remonte assez loin. Et depuis, Les morts au combat, alors on se rappelle avec émotion de la cérémonie. Alors on se rappelle de cérémonie avec plus d'émotion que d'autres, bon c'est comme ça. Moi je me rappelle particulièrement la cérémonie pour les deux commandos marines. Alors, il y avait un peu tous les ors que peut offrir l'armée et la marine, là, dans ce cas particulier, il y avait une très belle musique. Vous vous rappelez la marche de Robert Bruce. Les commandos marines étaient masqués, puisqu'ils sont forces spéciales. C'était une très, très... Et puis il y avait le bagad de l'Anbiwe. En réel, il y avait, c'était une très belle cérémonie. Et puis on n'oublie pas non plus, il y avait les deux veuves. Deux veuves magnifiques, femmes de soldats, qui assumaient la perte de leur mari ou compagnon, comme on dit maintenant, qui étaient également des personnages absolument fabuleux. On connaît la difficulté qu'il y a à devenir un soldat d'élite, comme le Jean-Chef Frion. Ce sont d'énormes efforts techniques, physiques, intellectuel pour arriver à ce niveau, de mourir pour la France.
Ouais, des athlètes et en même temps des gens qui ont des valeurs extraordinaires au point de donner leur vie pour leur pays, il n'y en a pas beaucoup. En France, par les temps qui courent, est-ce que vous avez déjà perdu des hommes au combat, mon général ?
Alors moi j'ai toujours été dans des situations particulières de missions, comme la dernière que j'ai connue au Liban, des missions d'interposition, des missions de négociation entre les parties opposées. J'ai donc pas eu directement sous mes ordres des soldats au combat que je pouvais potentiellement envoyer dans une mission directe. Bon, par contre, là c'est une question délicate. Des décisions que j'ai pu engager, que j'ai pu prendre, engager la vie des gens. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais. Voilà, bon, c'est toujours un peu délicat, mais bon.
Mais je veux pas non plus dévoiler des secrets de.
Non, c'est pas un secret, hein, c'est pas un secret. On arrive à des moments comme ça. C'était en 2001, le 5 décembre 2001, sur l'aéroport de Douchanbé, dans le début de l'opération en Afghanistan, on avait fait venir des Français, des avions français, des Transal, qui devait rejoindre Mazar-e-Sharif. C'est à peu près une heure et demie de vol en Afghanistan.
Avion de transport militaire.
L'ancien Transal, l'extraordinaire avion de Transal. Et bon, la mission était délicate parce que les aviateurs, très méritants, attention, dans l'armée française, il n'y a pas que des chasseurs alpins, il n'y a pas que des parachutistes, il y a des marins, il y a des aviateurs. Et là, j'ai pu découvrir également le grand mérite des aviateurs du transport aérien. Donc, ils arrivent le mercredi, avec un vol incroyable à travers l'Europe, par la Russie. Et le soir même, il faut remplir la mission. Il faut aller en Afghanistan, de nuit. Ils n'ont pas de renseignements, on n'a pas beaucoup de renseignements. Alors, je suis allé voir comme attaché militaire les gens de l'Alliance du Nord, l'ambassade de l'Alliance du Nord. Je suis allé voir les Russes, qui sont très ouverts à la coopération et à nous assister. Néanmoins, il arrive un moment...
À l'époque,
2001.
Ouais. 2001. 2001.
C'est un monde... 25 ans. Et là, il faut aller... C'est un peu un saut dans l'inconnu, parce que le colonel qui commande le détachement a peu de renseignements. On a les gens de l'Alliance du Nord, on a le contact avec eux sur place, on a quand même un officier qui est sur place. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, je reçois un appel... je reçois deux appels dans la soirée. Alors, comme attaché de défense, en fait, vous avez autorité sur les troupes qui sont sur le territoire. Bon, autorité, pas forcément opérationnelle, mais autorité...
Comment ça s'est conclu ?
Alors, ça s'est conclu. Je reçois un appel de Paris qui me dit, bon, le colonel qui est dans le détachement est un peu froid pour partir. Je vous avoue que je comprends. Et il me dit, s'il ne veut pas décoller, tu prends le commandement et tu me fais décoller les avions. Bon, je suis armé de terre, faire décoller des avions, bon. Deuxième question, on a une réunion... Ça vient de Paris, ça, par téléphone. On a une réunion avec le CEMA dans 15 minutes. Est-ce que tu peux nous garantir que les avions reviennent ?
Ouais.
Et là, votre décision, c'est d'envoyer des gens, un équipage, sur un territoire totalement nouveau. On ouvre le théâtre afghan, vol de nuit. Et là, vous dites, vous montez dans l'avion, pour deux raisons. D'abord, parce que vous devez assumer la décision que vous prenez vis-à-vis de cet équipage et la décision que vous prenez vis-à-vis de Paris. Et puis, avouons-le, s'il y a un problème, ne reviendrai pas pour l'expliquer. Donc ça, c'est égoïste. Et là, on fait le vol, posé d'assaut. Un posé d'assaut, c'est quand même assez impressionnant en pleine nuit en Afghanistan. C'est-à-dire, c'est un piqué quasiment presque à la verticale, 6 lampes sur la piste. Et là, vous tombez en admiration devant la technicité des pilotes et de l'équipage. C'est absolument extraordinaire.
Ouais.
Voilà. Et ce sont des Français, bien sûr.
Et ce sont des Français qui se sont entraînés pour ça. Alors, on va parler un petit peu des États-Unis, hein, juste après cela. On va parler de l'évolution du conflit et on commencera par ce rappel de Donald Trump ce jeudi. L'engagement des États-Unis reste limité.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Nous sommes avec le général Philippe Sidos, qui est l'ancien chef du bureau de liaison de la FINUL de 2016 à 2018, et bien sûr avec Franck Herriot, Gérard Gachet et Damien Chalamel. Donald Trump a rappelé ce jeudi que l'engagement des États-Unis restait limité. Je voulais qu'on l'écoute, Donald Trump, diffusion et traduction de BFM TV.
Non, je ne vais pas déployer des troupes nulle part. Si je le faisais, en tout cas, je ne vous le dirais pas. Mais nous ne déployons pas de troupes. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garder le prix de l'essence bas.
Voilà, donc nous ne déploierons pas de troupes. Voilà ce que dit Donald Trump. Il est d'ailleurs assez constant sur cette question. Il n'ira pas au sol. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment un... Comment dire, on a l'impression que là, il y a un mur infranchissable d'aller au sol pour les États-Unis. Expliquez-nous ce qui se passe à l'état-major américain, peut-être.
Alors, l'état-major américain se pose plein de questions. Hein. Ils ont plein d'hypothèses, plein d'options à proposer au président, puisque dans ce genre de situation, en France comme aux États-Unis, au final, c'est le président qui décide. On lui propose des scénarios avec des risques, bien évidemment. Avec des chances de réussite, des pourcentages de réussite, etc. Et au bout, c'est lui qui décide. Comme il a décidé il y a 3 semaines. On a beaucoup parlé de l'affaire du détroit d'Ormuz, la découverte. Bon, lui, il a pris des décisions, il savait très bien qu'il y avait un risque. Il était persuadé, d'après la presse américaine, il était persuadé que la campagne aérienne de 15 jours, au bout de 15 jours, d'avoir décapité le commandement politique et militaire iranien, aurait désamorcé les capacités de réaction des forces.
Oui, c'est ça, on a eu l'impression que ça allait durer 15 jours.
Voilà, c'est la première impression.
Et lui aussi.
Oui.
Enfin, c'est ce qu'il disait, en tout cas.
C'est un petit peu, oui. Alors... Le problème du déclaratoire du président Trump, c'est qu'il est, il s'oppose d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une matinée au soir. Voilà. Il a besoin de rassurer la population américaine sur le non-engagement de troupes au sol. L'engagement de troupes au sol, les Américains restent, bon, on ne va pas revenir au Vietnam, 58 000 tués. Néanmoins, l'Irak, beaucoup de monde. L'Afghanistan, la même chose. Alors, il y a des tués, énormément de tués, mais surtout énormément de blessés maintenant.
Ouais.
On soigne les gens et on ramène des gens en très mauvais état. Et puis, il y a toutes les conséquences après. Il y a tout le problème des traumatismes qui entraînent énormément de suicides aux États-Unis.
Ouais.
Alors, ça avait été de gens qui sont
et ça, politiquement, c'est très compliqué à assumer. C'est ça l'idée.
Au niveau régional, les gens le vivent. Il y a énormément de gens qui s'engagent dans l'armée américaine, énormément de gens qui sont allés sur les deux derniers théâtres d'opération, Irak et Afghanistan, qui se sont quand même pas très bien passés. Hein, faut être honnête, à la fin, c'est pas un succès. Donc, et c'est récent. Donc, forcément, les Américains s'inquiètent d'un engagement au sol. Surtout face à des gardiens de la Révolution, à des Basidji, comme on dit maintenant, qui sont des auxiliaires. Une population de 90 millions d'habitants, on va pas conquérir l'Iran. On va pas changer... Alors, l'objectif politique est de changer le régime ou de pas changer le régime.
Que le peuple se soulève de lui-même au bout d'un certain temps. Il a déjà essayé, ça n'a pas été...
Alors, ils sont partis également, et les Israéliens en parlent souvent, et même le président Trump, de pousser, effectivement, les Iraniens à se révolter. Alors, bon, de leur proposer des conditions favorables à une révolte. Alors c'est très bizarre ça également, parce que le soulèvement iranien il y a quelques semaines a certainement, bien évidemment, refroidi les oppositions en Iran. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Donc proposer aux gens comme objectif de se soulever, alors qu'ils ont vu il y a quelques semaines ce que ça avait donné de se soulever,
c'est
pas très très réaliste.
Ouais, ouais.
L'engagement au sol, pour l'instant, il n'y a pas les troupes disponibles. Ce serait particulièrement délicat parce que ce serait une opération amphibie ou aéroportée, ce qui est très délicat. C'est pas du tout. Même à la limite, l'invasion en Irak se faisait à partir du sol. Les deux attaques contre l'Irak étaient à partir du sol. Mmh. Ce qui est, entre guillemets, plus facile, avec une énorme préparation de force. Mmh. Donc là, vous avez, quand vous observez ça, vous vous posez des questions simplement techniques.
Franck, juste avant de vous donner la parole à Damien Chalamel et Franck Herriot, un auditeur nous dit qu'en fait, s'il n'y a pas eu dommages dans la cour des Invalides, c'est parce qu'elle est en travaux, et ce, pour un certain temps. Voilà, tout simplement.
Oui, j'ai vérifié de mon côté, c'est pour améliorer l'accessibilité des visiteurs, notamment des personnes à mobilité réduite.
Voilà.
Toute la cour des Invalides est effectivement en rénovation.
Ce qui explique ceci. Damien Chalamel et Franck Herriot.
Oui, moi j'ai l'impression, en lisant notamment la presse anglo-saxonne, que ce qui guette quand même cette opération et le président Trump, c'est le risque d'enlisement, qui paraît de plus en plus important. Ajouté à cela qu'il a quand même donc ses buts de guerre qui changent d'un jour à l'autre ou d'une version à l'autre, ils sont de plus en plus contredits, y compris par des proches. Hein. On a la démission là, de ce fameux Joe Kent, qui était quand même un cadre de l'antiterrorisme aux États-Unis. Je le cite, « L'Iran ne présentait aucune menace imminente pour notre nation et il est évident que nous nous sommes engagés dans ce conflit sous la pression d'Israël et de son puissant lobby aux États-Unis. » Et puis Mme Tulsi Gabbard qui nous confirme ce que tout le monde savait, à savoir que les Iraniens n'étaient certainement pas prêts de relancer leur programme d'enrichissement nucléaire. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors, et des buts de guerre, parce que
donc, entre question, ces question.
C'est plutôt une conversation. C'est que j'ai l'impression, si vous voulez, que ce risque d'enlisement et de critiques en interne est de plus en plus est en
de
train
plus, de, plus voilà, en plus de, fort.
De plus en plus flagrant. Et ajouté à cela, je vous parlais la semaine dernière, c'est que d'ici deux mois, il devra quand même justifier, enfin obtenir un vote. Du Congrès. Les élections de mi-mandat, c'est octobre, mais d'ici au bout de deux mois de cette OPEX, là, enfin de cette
opération,
il faut qu'il ait l'autorisation du Congrès. Donc là, si d'ici deux mois, on en est toujours là, alors avec probablement encore plus de dégâts, notamment plus de bombardements israéliens, dont on parlera, parce que c'est un autre aspect dont on ne parle pas. Hein. Israël pousse ses. Ces feux, on sent
aussi donc, il y a une opposition évidemment aux États-Unis à ces opérations, mais
des interrogations fortes.
Est-ce qu'il ne sera pas forcé finalement dans l'engrenage d'intervenir au sol
En fait, pour obtenir des résultats
sur le plan purement stratégique.
Ouais. Alors, l'intervention peut être limitée. On a parlé de l'île de Karg, vous savez, qui a été bombardée il y a quelques jours, où les Américains n'ont bombardé que les installations militaires en préservant.
Général Sidos.
En préservant les installations pétrolières de transit. Ça pourrait être un gage. On en a parlé, on en parle de plus en plus, de prendre possession de l'île de Karg. Bon. Il y a également des petites îles autour du détroit d'Ormuz. Bon, l'île de Karg, ce serait un atout, ce serait un levier potentiel. C'est une option qui est étudiée, dont on parle de plus en plus. Le problème, c'est que...
Qui est à quelle distance de l'Iran ?
Alors, c'est proche de l'Iran et beaucoup plus loin de l'Arabie Saoudite. C'est bien évidemment beaucoup plus proche, ce serait une trentaine de kilomètres de l'Iran et une centaine de l'Arabie Saoudite. Donc ça exige également un pont aérien, un pont naval, enfin c'est pas simple non plus. Hein. Et puis bon, à partir de ce moment, du moment où il y aurait un abcès de fixation, disons, les Iraniens ne vont pas rester à attendre que ça se passe. Mmh. Quelle sera leur réaction ? On a déjà vu qu'ils ont étendu le conflit aux installations pétrolières, qui était une ligne rouge.
Ouais. Ils n'arrêtent pas, là. Ils ont encore bombardé aujourd'hui.
C'est une ligne rouge. Les installations pétrolières, alors, il est évident que pour les Iraniens, l'objectif, c'est d'affaiblir le monde qui est avec les Américains, qui était embarqué dans la guerre, mais sans le vouloir, mais qui, malgré tout, est du côté des Américains, potentiellement pour qu'ils fassent pression sur les Américains pour leur dire, au président Trump, pour lui dire « arrête, sinon tout va être détruit ». Et ce conflit qui va s'enliser, qui va durer, voilà. Donc l'engagement au sol pourrait être limité, ça peut être une tentative. Vous savez, dans ces affaires de guerre, quelquefois il y a des paris.
Ouais.
Même les grands généraux qui sont à la tête des armées américaines, il y a un pari. Pas revenir sur l'affaire du pont d'Arnhem de 44, où le général Montgomery pensait qu'en passant par cette zone-là, il atteindrait le cœur allemand par la Ruhr. On a dit qu'il y avait un risque. il arrive un moment où on prend le risque. Eisenhower, le 5 juin, prend le risque. Alors, il y a des risques qui fonctionnent, quand on a une énorme supériorité. Il y a des risques qui fonctionnent moins quand on a une supériorité relative. Ouais. Et là, dans le cas iranien, il y a une supériorité relative. C'est évident qu'ils ont la suprématie aérienne.
Les Américains.
Les Américains. Ouais. Mais en dehors de ça, l'affrontement au sol, gardien de la Révolution, même s'ils ne sont pas très bien équipés, ils auront des armes anti-chars, des armes d'infanterie.
Et puis on voit qu'ils ont des missiles efficaces. Hein. Franck Herriot.
Vous parlez d'un engagement au sol limité, ce qu'on ne pourrait pas imaginer. Un soutien américain et israélien à des groupes de combat iraniens, de résistants iraniens et ou de Kurdes iraniens qui sont effectivement de très bons combattants, qui sont, si j'ai bien compris, qui sont prêts. On a même parlé de groupes de résistants iraniens qui attendent qu'un feu vert. On parle d'un feu vert du fils du chat de Razavi. Est-ce que ça pourrait pas être aussi ce scénario-là? Si le but de guerre est quand même, de toute façon, de faire tomber ce régime.
Le changement de régime.
Général Sidos.
Alors, effectivement, le but de guerre des Israéliens et également des Américains, ils en ont beaucoup parlé, c'est le changement de régime. Hein, parce qu'on peut penser, ou eux peuvent penser, qu'un changement de régime amènerait pour les Israéliens l'abandon du soutien au Hezbollah. L'abandon du programme nucléaire, bon, ça, encore faut-il que le nouveau gouvernement joue le jeu. Ça, c'est encore autre chose. Après, le soutien au mouvement de résistance. Quand j'entends des experts parler, effectivement, d'un soulèvement populaire contre le pouvoir en place, on parle beaucoup du fils du chat d'Iran. Et après, quel est le nom des réseaux? Quel est le nom des groupes qui s'opposent? J'ai envie de dire, faites-moi la liste. Quelle est leur puissance? Quelle est leur réalité? Est-ce qu'ils sont... ils sont où? Ils sont en Irak? Alors, on a parlé des Kurdes au début. Bon, les Kurdes, oui, d'accord. Enfin, là, on n'en parle plus, déjà. Ensuite, les Kurdes, beaucoup, vous savez, beaucoup de ces mouvements, d'une manière générale, ont été échaudés par les Américains. Parce que les Américains vous lancent dans une affaire et puis après vous abandonnent. Il faut faire très attention à ça. Quelles sont les garanties que ces mouvements de résistance, si tant est qu'ils existent et qu'ils soient suffisamment puissants, quelles sont les garanties que les Américains vont leur donner?
Allez, on va réécouter Donald Trump juste après cette petite virgule.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Mais je dirais qu'on est en avance sur notre calendrier. J'ai appelé ça une excursion parce qu'il s'agit d'une petite excursion. J'ai fait quelque chose qu'aucun autre président n'a eu le courage de faire, voulait le faire, mais n'a pas eu le courage de le faire. Et je ne leur en veux pas. Je pense que j'ai dû le faire moi et j'ai fait un excellent travail. Notre armée a fait un excellent travail. Nous avons l'armée la plus forte dans le monde et de loin. Et notre équipement est acheté également par beaucoup, par le Japon en particulier. Et voilà ce dont nous avons parlé, un petit peu de vente d'équipement militaire. Donc nous avons une excellente relation avec la Première ministre et avec le pays.
Donald Trump, donc, voilà, qui est très satisfait. Hein, tout se déroule bien, ça se passe bien, c'est extra. Hein. Est-ce qu'on peut en juger autant quand on a un œil militaire opérationnel comme le vôtre, Général Sidos?
Il voulait avoir des résultats au bout de 15 jours. Il y a des résultats, bien évidemment. Ils estiment qu'il y a beaucoup moins de missiles balistiques et de drones qui sont lancés. Néanmoins, il y en a encore qui passent. On pourrait même être surpris que des missiles balistiques passent la protection israélienne. Alors, dans l'immédiat, ils passent avec des sous-munitions. Si c'était d'autres charges, la situation serait beaucoup plus délicate. Hein, bon, dans le cas précis, ce sont que des munitions classiques. Alors, c'est très désagréable de prendre ça sur la tête, bien évidemment. Mais voilà, la situation, pour l'instant, elle évolue pas. On est toujours au même niveau, c'est-à-dire tuer des autorités iraniennes. Il y a encore un directeur du renseignement qui a été tué, je crois, aujourd'hui. Mais pour l'instant, on a effectivement, dans les images, on voit qu'il y a des véhicules qui sont détruits, des rampes de lancement de missiles qui sont détruites, des pièces d'artillerie, etc.
Un excellent travail, il dit.
Mais les Américains sont capables de le faire. Ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en 2001 en Afghanistan. Ils l'ont fait. Alors, si on revient sur le Kosovo, là, c'est pareil, il faut toujours être très prudent. Parce qu'au Kosovo en particulier, il y a eu d'énormes bombardements qui ont duré très longtemps. Et puis, au bout du compte, il n'y avait pas énormément de matériel serbe qui a été détruit. Donc ça, c'est une chose. Donc attention à toutes les comparaisons. L'appui aérien, c'est très efficace. Il ne faut pas non plus dire que c'est pas... Mais ça ne fait pas tout. Et là, dans l'immédiat, bah, on casse. On casse des installations, on casse des infrastructures, on casse des réseaux de communication. Mais bon, au bout du bout, il en reste toujours.
Allez, nous avons un officier en ligne, Charles Dazera. Bonjour Charles Dazera.
Bonjour messieurs, bonjour général.
Alors, vous êtes officier des forces spéciales, hein, vous avez été chef de groupe au prestigieux commando parachutiste de l'air, numéro 10, nous en parlions tout à l'heure, le fameux CPA-10, et vous publiez chez Mareuil Éditions un livre qui s'appelle « À cœur ouvert ». Récit d'un commando du CPA-10. Vous revenez sur votre engagement hein, pour votre pays et puis sur les missions à haut risque que vous avez vécues ces dernières années avec vos hommes. Alors, je vais vous demander comment est-ce que vous avez, vous aussi, hein, vécu la mort de l'adjudant-chef Frioul. Mais auparavant, Franck Herriot, vous avez lu « À cœur ouvert », deux mots sur le livre de Charles Dazera.
Oui, alors 10 ans d'opérations secrètes, d'opérations spéciales, de presque toutes les opérations, ou presque de l'armée française au Moyen-Orient ou dans les déserts d'Afrique, à libérer des otages, combattre Daesh, parfois au corps à corps, ou à neutraliser, puisque c'est le terme utilisé, à neutraliser un chef djihadiste. Autant dire que le témoignage de Charles Dazera est un témoignage rare et précieux, puisqu'il nous offre la possibilité de suivre presque pas à pas ces soldats de l'ombre, ces hommes, ces 7 commandos des forces spéciales, triés sur le volet, les meilleurs parmi les meilleurs. Au fil des pages de ce journal de guerre, on découvre la peur, mais aussi le courage qu'il faut pour la combattre, le courage qu'il faut pour accepter la mort d'un camarade. C'est le dur métier des armes, avec ses grandeurs et ses servitudes. Cet officier, qui se compare volontiers à un chevalier des temps modernes, au service de la France, déplore le fossé, c'est un aspect intéressant du livre, déplore le fossé entre l'armée et la société civile. Il dit même qu'il est abyssal. Il nous expliquera pourquoi. Il y a de l'action, bien sûr, dans ces lignes, mais aussi une méditation intime sur le sens du devoir. Ce n'est pas la moindre des qualités de ce livre.
Voilà. Charles Dazera, question. Est-ce que vous avez le sentiment que la France a pris la mesure du décès de l'adjudant-chef Frioul, hein, cette France qui est quand même très éloignée des réalités militaires, puisqu'il y a une bonne partie, on en parlait au début, des Français qui ne font même plus leur service, donc qui n'ont absolument aucun contact avec l'armée. Est-ce que vous avez trouvé que comment est-ce que vous avez ressenti ce drame? Est-ce que vous avez trouvé que la réaction de la France était à la hauteur?
Alors, écoutez, assez simplement, je dirais que l'adjudant chef, quand il est décédé, on a beaucoup parlé de la mort, on a beaucoup parlé de la potentielle cause, on a assez peu parlé de l'homme, ou à part dans les médias spécialisés.
Alors on vient d'en parler avec le général Sidos, justement, mais vous avez raison.
Très bien. Et quand on le voit finalement en photo, il y a peu de gens qui l'ont dit, mais c'est quand même quelqu'un, un guerrier assez remarquable, parce qu'il a quand même été cité 4 fois à la Croix de la Valeur Militaire, ce qui est la version un peu récente de la Croix de Guerre, entre guillemets. Et c'est un combattant vraiment qui est. J'ai croisé un de ses frères d'armes hier, justement, qui a fait un podcast sur lui avec une petite vidéo. Il me disait. Il incarnait l'humanité comme le guerrier, comme le bon chef, vraiment le sous-officier de proximité. Donc je dirais que oui, on a fait de la communication. Oui, la cérémonie a été propre, comme d'habitude, parce que les armées savent très bien le faire. En revanche, la difficulté qu'on a aujourd'hui entre le monde civil, si je peux l'appeler comme ça, et est-ce que vivent les armées est assez ambivalent, parce que si l'institution militaire a sans doute, et sans doute l'une des institutions, voire l'institution qu'elle a, qui a la meilleure image dans la société civile, la compréhension de ce qui est fait, de la violence qu'on y vit et de la fraternité d'armes qui est finalement quelque chose d'assez gratuit dans un monde où tout se monnaie, est assez incompréhensible pour le monde normal. Entre guillemets. L'exemple que je peux citer, si vous me permettez, c'est... Oui. J'ai 4 de mes d'hommes que je suis régulièrement, que j'ai commandé au feu, et qui ont, vous savez, ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques. Pour eux, c'est pas facile. Leurs épouses les ont quittés pour quelque chose d'assez simple. Hein. Ils ont dit « Tu es trop faible, tu n'es pas digne, j'ai pas épousé un loser. » Donc, si vous voulez, quand on se rend compte d'une différence comme ça, même au niveau des épouses, c'est dire de la différence abyssale qu'il y a entre la compréhension de l'acte de guerre et l'image que ça peut donner. Bah, qui est quand même, qui pose la question de la résidence de la nation. Voilà,
c'est impressionnant. Franck Herriot.
Oui, vous parlez, Charles Dazera, vous parlez de la non-acceptation du fait de guerre par la société moderne. Vous dites qu'aujourd'hui, le soldat rentre dans une société qui refuse de voir la réalité crue des combats.
Oui, tout à fait. En fait, je trouve qu'on a mis un petit peu sur le devant l'idée des syndromes post-traumatiques. Je vais pas renfoncer une porte ouverte, mais c'est pas une nouveauté dans l'humanité. Depuis que l'homme fait la guerre, j'imagine que soit à l'Antiquité, à l'époque féodale ou le poilu dans les tranchées, il est évident qu'il n'est pas sorti intact d'actes guerriers qu'il a pu réaliser sur un champ de bataille. La grande différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui, c'est que hier, si la société, évidemment tout le monde n'a pas été au feu ou au combat, mais en tout cas tout le monde comprenait la nécessité de ce contrat social et moral qu'il y a entre les armées et la nation, et on avait tous le même dénominateur commun. C'était l'objectif de notre société, qui aujourd'hui est tellement... entre guillemets, pas en déliquescence, mais en tout cas, c'est très largement effrité. Et on se retrouve avec finalement une prestation de service. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire.
Voilà. Ouais, c'est le sentiment que vous avez, en tout cas.
On trouve toujours, si vous voulez, des gens qu'on croise et qui sont dans une admiration assez déconcertante, assez étonnante, de milieux très variés, d'origines très variées aussi. Donc ça montre que c'est quelque chose qui fascine, parce que c'est loin de la réalité. En revanche, justement, cette réalité est tellement choquante qu'elle est que tout le monde repousse à la gaffe cette réalité jusqu'à ce qu'on la découvre, parce qu'en fait on prend le mur.
Damien Chalamel.
Oui, j'ai l'impression malgré tout, ne pas vous contredire, mais sur ce fossé entre la société civile et les militaires, il me semble que c'est surtout la conséquence naturelle du fait qu'on ait une armée de métier. Et il me semble que, par exemple, en Indochine, alors certes, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale était encore très présente, mais on avait un peu la même situation, c'est-à-dire qu'on avait malgré tout une société civile qui ignorait largement le sacrifice du corps expéditionnaire français. Et ça n'est qu'à partir du moment où vous avez effectivement une armée de conscription, quoi qu'on en pense, les réalités de cette guerre, elles sont connues... Dans n'importe quelle famille française. J'ai l'impression que, ce que vous dites, c'est la conséquence. Et c'est aussi.
Est-ce que c'est la conséquence du.
De la fin de la conscription, parce qu'effectivement. Et ça permet aussi au pouvoir politique d'engager ces hommes, d'engager les soldats français dans des conflits. Dont on peut questionner la légitimité.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Charles Dazera? Et on posera la question au général Sidos après.
Écoutez, je suis tout à fait d'accord sur la partie de la conscription, parce que c'est vrai que ça impose un principe de réalité à la société civile. Ça, c'est une certitude. En revanche, il y a quelque chose d'assez nouveau qui crée, qui est une sorte de catalyseur aujourd'hui. C'est le fait que, comme l'homme est devenu un consommateur à part entière et que tout se mesure, l'acte de guerre qui est quand même donner sa vie, c'est là rien de plus gratuit finalement, c'est quelque chose qui est quand même contre nature à l'époque moderne. J'ai un exemple tout simple, je suis à la chaîne au Metz à l'école militaire, et à côté de moi j'ai un sénateur qui prend le plateau avec moi, qui dit « Mon colonel, vous n'aurez peut-être pas assez de points, vous n'êtes pas chipéré », puis il me répond « Mais oui, tout se paye, rien n'est gratuit. Pardon, monsieur le sénateur, je ne veux pas vous corriger. Si je meurs au combat demain, a priori, c'est gratuit quand même. Et il était sidéré. Alors que bon, c'est quelqu'un qui aime d'éduquer, c'est élu. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même, on est, comme tout est mesurable aujourd'hui, sauf finalement l'acte de donner sa vie ou le service au sens plus large.
Ouais. Général Sidos, est-ce que donner sa vie, ça a encore un sens
La preuve, c'est que ça a un sens pour énormément de gens, dont...
Pour la majorité des Français, j'entends.
Pour la majorité des Français, non. Après la guerre de 14-18, il y a quand même eu beaucoup d'incompréhension également. Il ne faut pas non plus imaginer que tout était beau avant. Vous avez eu tout à fait raison de rappeler pour la guerre d'Indochine, où le corps expéditionnaire se battait pour l'Empire, pour la gloire, pour son régiment. Le problème de notre époque, en particulier des soldats qui quittent le service après avoir connu des épreuves, qui sont évoqués par, par le colonel du CPA-10, c'est qu'ils se retrouvent très isolés. Quand vous quittez le service, vous perdez un univers complet, un univers où vous êtes encadré, vous êtes des camarades. En fait, d'accord, vous battez pour la France, ça c'est certain, mais vous vous battez aussi pour l'équipe avec laquelle vous êtes, avec vos camarades. Mmh. Pour une certaine dignité humaine. Et après, quand vous quittez, ben, il n'y a plus rien. Déjà, la France sont des déserts militaires. J'ai envie de dire, autrefois, les gens se retrouvaient dans des messes. Quand il y avait des régiments, les messes étaient ouvertes. Hein. J'ai connu
des
ça.
Les messes, on ne parle pas des cérémonies religieuses.
Non, non,
hein,
non,
on parle des restaurants réservés aux militaires.
Voilà, des clubs d'officiers, de sous-officiers, où on se retrouvait, où les gens parlaient entre eux de ce qu'ils avaient vécu. Le problème qu'il y a également avec les combattants actuels, avec les combattants modernes, c'est qu'ils vivent des choses extraordinaires, longtemps, pendant des années, plusieurs fois, mais après, à qui on peut en parler ? Les gens ne vous comprennent pas, ne veulent pas le comprendre, sont jaloux, il y a une forme de jalousie également, même en interne. Donc il y a cette isolement, et là, bon, l'anecdote triste des épouses qui abandonnent leur mari, bah oui, le monument qu'elles ont épousé, il souffre. Il n'est plus, on ne l'accompagne plus. Ce qui est très
aussi solide qu'on le croyait.
Ouais. Il est plus solide qu'on le croyait. Bon, ça, c'est un autre aspect. Peut-être qu'elles n'étaient pas habituées à ça, hein, parce qu'elles n'étaient pas issues d'un milieu qui était préparé à accepter ces épreuves et cette réalité. Mais je reviens, pour participer à ça, c'est un peu l'isolement. On recrute des gens, ils appartiennent à des unités extraordinaires, avec des qualités humaines absolument fantastiques, on leur demande des efforts pendant des années, physiques, intellectuelles, l'épreuve du feu répétée, et puis après c'est terminé, au revoir.
Charles Dazerat, donc je rappelle que vous avez publié chez Marie Édition un livre, À cœur ouvert, récit d'un commando du CPA-10. Dites-nous en quelques mots ce que c'est que ce CPA-10. Qu'est-ce que c'est ? C'était un peu mythique pour des militaires. Dites-nous pourquoi.
Alors, si vous voulez, le CPA-10 a une triple origine. Il est originaire des premiers parachutistes avant la Seconde Guerre mondiale. Originaire des premières actions spéciales avec le premier PIMA, des SAS pendant la Seconde Guerre mondiale également, et des commandos de chasse pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est vrai qu'on a une espèce de triptyque qui fait un peu partie des débuts des opérations spéciales modernes, et derrière, un peu mythique aussi pour certains, parce qu'on a quand même putché avec les généraux en Algérie, ce qui nous a valu notre dissolution avant d'être recréé au début des années 90. Et puis finalement, après, depuis les années 90, toutes les campagnes modernes, depuis l'Afghanistan jusqu'à nos jours, nous avons participé. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai engouement pour cette unité, mais comme les commandos marines et le premier PIMA, parce qu'il y a un côté un petit peu, pardonnez-moi l'expression, un peu sexy pour le jeune, parce que c'est l'élite, c'est de l'action directe, c'est de l'action de choc. Et comme aujourd'hui, on est un petit peu sur une logique de consommation, même dans le métier militaire, finalement... Si on veut aller prendre un peu d'adrénaline, c'est dans ces unités qu'on choisit d'espérer aller. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est une idée assez difficile.
Merci Charles Dazerat. Je recommande votre livre paru chez Mareuil Édition, À cœur ouvert, récit d'un commando du CPA-10 par un officier du CPA-10, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, donc à lire, magnifique livre. Combien de pages Gérard Gachet, 150, c'est ça ? Parce que Gérard Gachet l'a entre les mains.
160,
voilà, 160 pages. À ne pas rater. Merci infiniment, Charles Dazerat.
Merci, messieurs. Merci, mon général.
Voilà. Et nous allons continuer à parler de l'Iran et notamment de la France, de la situation de la France, juste après ceci.